les podcasts de Radio Vatican.
Zéro SDF en France en moins de 10 ans, c'est possible, défend la Fondation Abbé Pierre. Dans un appel lancé lundi 3 avril 2017 aux candidats à l'élection présidentielle, elle présente un plan qui permettrait d'en finir avec la vie à la rue en un quinquennat dans les villes petites et moyennes et en moins de 10 ans dans les métropoles. En 2012, la France comptait 143 000 sans domicile fixe, soit 50% de plus qu'en 2001. Parmi les mesures proposées dans ce plan, la création de 150 000 logements vraiment sociaux par an avec des objectifs chiffrés d'attribution aux bas revenus, la mobilisation de 40 000 logements privés grâce à des incitations, la réduction drastique des expulsions ou encore l'accueil de personnes migrantes. Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, revient sur ce plan, sa déclinaison concrète et son coût.
On pense qu'il faut vraiment appliquer le paradigme du logement d'abord, qui est la doctrine officielle en France depuis 2010 et qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde à chaque fois que ça a été appliqué. C'est-à-dire que ne pas considérer le logement comme l'aboutissement, la récompense à la fin d'un long parcours d'obstacles pour les personnes sans domicile. Il faut que ce soit la condition de la réinsertion et pas la dernière étape. Il faut que ce soit le préalable. Parce que si on attend que les personnes à la rue commencent à se former, à chercher un travail, à entamer un parcours de soins, ça ne marche jamais, parce que c'est pas à la rue qu'on peut faire ça. Il faut pouvoir d'abord se poser, sans condition, donc un accueil à bas seuil, y compris avec des animaux de compagnie si on en a, avec ses addictions, avec ses troubles psychiatriques, et c'est une fois dans le logement qu'on pourra entamer un parcours de soins, de réinsertion. Donc c'est un changement d'approche qui aussi nécessite parfois de transformer des places d'hébergement en véritables logements. Pas attendre une quelconque capacité à habiter qui en fait ne peut pas se prédire à l'avance. Même des personnes dont on pourrait penser qu'elles sont très éloignées de la vie autonome en logement, on s'aperçoit qu'à condition d'avoir un vrai accompagnement social, médical, administratif, si besoin, ces personnes sont capables de vivre dans un logement à elles. C'est le cas notamment avec l'expérimentation un chez soi d'abord en France, qui se fait dans pas mal de pays depuis des années. Même pour des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères ou des addictions graves, on leur procure un logement et 4 ans plus tard, à 90%, ces personnes y vivent encore sans problème, mais ça nécessite un accompagnement.
Quand on parle de politique du logement, on pense d'abord au HLM. Vous soulevez le paradoxe que les ménages à très bas revenus ont moins de chances d'accéder au parc social. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème ?
Il faut déjà que les logements sociaux qui sortent de terre le soient avec des niveaux de loyer compatibles avec des bas revenus. Après, il faut aussi se fixer des objectifs quantitatifs. Tant qu'on n'a pas d'objectifs chiffrés, contraignants, la tendance spontanée des bailleurs privés et des bailleurs sociaux également, c'est quand même d'éviter ces ménages vus parfois comme des ménages en difficulté, qui sont source potentielle de difficultés aussi en termes de gestion, en termes de risque d'impayés. On sait bien que spontanément, des personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui ont déjà été expulsées pour impayés de loyer, ne sont pas accueillies à bras ouverts par les bailleurs sociaux. Donc il faut les inciter à les accueillir davantage et aussi leur donner les moyens, parfois financiers, de baisser leur loyer pour les ramener à un niveau acceptable pour ces ménages à bas revenus, et aussi les outiller en termes d'accompagnement pour aller suivre finement ces personnes, les accompagner y compris avec des visites à domicile, y compris en dehors des horaires habituels, dès qu'il y a un problème de voisinage, de troubles de comportement, qu'il y ait une réponse. Ça peut passer par des associations qui font ça très bien, y compris dans le parc social.
On a parlé du parc social, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aussi mobiliser le parc privé? Et comment? On craint souvent des atteintes à la propriété privée avec des revendications de réquisition. Quelles sont, vous, vos propositions?
Alors nous, on propose justement aux propriétaires privés, aux bailleurs privés, une formule un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire gagnant pour ces propriétaires qui mettraient à disposition leur logement pour des ménages en difficulté, parce qu'ils auraient des avantages fiscaux qui viendraient compenser la perte de loyer par rapport au marché. Gagnant pour eux aussi parce que ça s'accompagnerait d'une gestion locative entièrement assurée par une agence immobilière à vocation sociale, une association qui pourrait à la fois attribuer le logement à des ménages en difficulté et puis les accompagner ces ménages au jour le jour, si bien que le bailleur n'aurait rien à faire. Et pour beaucoup de bailleurs, notamment des bailleurs amateurs qui ont juste un ou deux logements, ça peut être très rassurant d'être débarrassé de la gestion locative et de tous les risques inhérents, risques d'impayés, de vacances, de dégradation. Ça, il faut que ce soit pris entièrement en charge. Donc on demande un effort au bailleur pour baisser son loyer et en échange de quoi, il a un loyer entièrement sécurisé ensuite sans démarche administrative compliquée et surtout sans gestion locative et sans risque. Après, évidemment, c'est gagnant pour la collectivité, pour la puissance publique, parce que ce sont autant de ménages en moins à héberger, et on sait que les solutions d'hébergement sont très coûteuses, notamment à l'hôtel, en centre d'hébergement d'urgence. Et puis c'est évidemment bénéfique pour les personnes elles-mêmes, parce qu'elles peuvent se reconstruire dans un vrai logement.
Comment est-ce que vous chiffrez le parc social qu'il faudrait construire en plus et le parc privé à mobiliser ?
On estime que l'objectif qui était celui de François Hollande, d'ailleurs de 150 000 logements sociaux en plus par année, est un objectif raisonnable. D'ailleurs, on est à 130 000 cette année et ça monte en puissance. Donc ça veut dire que l'appareil productif français est capable d'atteindre les 150 000. Par contre, on dit qu'il faut être vigilant sur la nature de ces logements sociaux. Il faut qu'ils soient vraiment accessibles aux ménages à bas revenus. Et on sait que ces derniers temps, pour compenser en fait les baisses de subventions de l'État aux bailleurs sociaux, ces bailleurs sociaux, face à la hausse du foncier, face à la hausse des coûts de construction, ont eu tendance à augmenter les loyers de sortie.
Et en termes de chiffres par rapport au parc privé à mobiliser ?
Nous, on se base sur ce qui a déjà été fait par le passé, 40 000 logements privés captés chaque année. On pense que si on fait ça pendant quelques années, ça permettra de compléter l'effort en termes de production de logements sociaux. Et puis aussi, il y a des zones où il n'y a pas de logements sociaux. Donc il faut que ces zones-là aussi soient mises à contribution pour accueillir les ménages à bas revenus. Et même dans ces zones-là, il y a toujours du parc locatif privé qui tourne, qui change de locataire chaque année. Et c'est là qu'il faut leur proposer ce bail gagnant-gagnant.
De l'autre côté de la chaîne, il y a la question des expulsions. Quelles sont les solutions que vous proposez ?
Alors, on pense que l'expulsion doit être vraiment la plus mauvaise des solutions, celle qui peut avoir lieu vraiment dans des cas très exceptionnels, en cas de mauvaise foi avérée du locataire, par exemple. Et qu'en tout état de cause, il ne faut pas qu'il y ait d'expulsion sans une proposition de relogement. Donc ça veut dire prévenir en amont les situations d'impayés avec des aides au logement pour les personnes pour pouvoir payer leur loyer qui solvabilise mieux les ménages à bas revenus. Et puis, dès les premiers impayés, avoir une médiation, un accompagnement social pour reprendre le paiement du loyer. Après, quand la situation est inextricable, quand il y a de manière structurelle des revenus insuffisants pour payer les loyers, là il faut envisager évidemment un relogement et en attendant une indemnisation du bailleur. Et puis reloger, soit dans le parc privé à moindre coût si le logement précédent était peut-être trop grand ou situé dans des zones trop chères, soit évidemment dans le parc social qui devrait pouvoir offrir des solutions aussi aux ménages menacés d'expulsion. C'est d'ailleurs l'esprit de la loi Dalo, l'État s'engage juridiquement, légalement à les reloger.
Parmi les personnes sans domicile, il y a un cas particulier, celui des personnes migrantes. Ce cas-là aussi, vous l'abordez, en quoi est-ce qu'elles sont plus vulnérables ?
Alors effectivement, quand on regarde les populations sans domicile, on s'aperçoit depuis longtemps, mais de manière sans doute accrue ces dernières années, qu'il y a un bon nombre qui sont des personnes en situation de migration, primo-arrivant, soit qu'elles s'apprêtent à demander l'asile, et on sait que c'est très difficile de demander l'asile parce que les guichets sont engorgés, soit qui sont demandeurs d'asile mais qui n'ont pas de place dans les CADA, dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, soit qui ont été déboutés du droit d'asile et qui là n'entrent dans aucun dispositif parce que ces personnes n'auraient pas vocation à rester sur le territoire. Ça veut dire 30 à 40 000 personnes de plus chaque année. C'est une minorité de personnes qui quittent le territoire. La plupart resteront, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, avant d'être in fine régularisés parce que ces personnes travaillent, ont des enfants ou ne peuvent même pas parfois légalement être envoyées dans leur pays qui peut être en guerre ou des personnes qui sont malades. Donc ça veut dire assouplir les critères de régularisation et l'application de ces critères pour permettre à ces gens de reprendre une vie normale, de travailler légalement, d'être éligibles au logement social, de scolariser leurs enfants tranquillement. Ça coûte rien à l'État de régulariser des personnes et ça permet à ces personnes justement de se prendre en main de manière autonome, de travailler et c'est évidemment leur aspiration.
Ça nécessite de l'argent tout cela. Combien est-ce que ça coûterait et finalement pourquoi est-ce que ce serait plus efficace que la politique qui est menée actuellement ?
Alors on pense que ça nécessite un investissement effectivement mais que c'est autofinancé en quelques années. Ce sont des investissements parce qu'il faut construire davantage de logements sociaux. Mais on sait que le modèle de financement du logement social est plutôt satisfaisant en France avec des prêts à long terme qui sont ensuite remboursés par les loyers des locataires. Ce sont des dépenses pour indemniser les bailleurs privés qui voudraient s'engager. Mais là aussi, on sait que ça coûte moins cher que l'hébergement. À l'arrivée, très rapidement, ça rapporte de l'argent à l'État parce que les personnes recourent moins aux services d'hospitalisation. Donc si on peut éviter la dégradation de leur état de santé en leur proposant des logements, on s'aperçoit que ça rapporte de l'argent et que surtout, pour ces personnes, ça permet de repartir dans la vie, de travailler, de se soigner à moindre coût et surtout d'une meilleure manière. Et puis après, à leurs enfants, d'être mieux scolarisés, d'être plus productifs dans la vie, c'est un investissement à long terme. les personnes restent dans leur logement et donc occasionnent moins de dépenses d'accompagnement, de maraudes, de mobilisation de places d'hébergement qui sont en fait assez coûteux, quoi. Enfin, organiser des maraudes, ça veut dire aller voir des gens parfois toutes les nuits pour essayer de les convaincre ou de leur trouver une place d'hébergement qu'elles vont quitter le matin même ou au bout de quelques jours. Tout ça sont des efforts très importants en fait en termes de travail social, etc., pour des résultats qui sont lamentables pour la qualité de vie des personnes et même pour les finances publiques parce que ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'accompagnement.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.